Nicolas Brugnon de Romain Rolland, quatrième partie. Ainsi je devisais, marchant sur les talons de mon ombre bavarde, et je feignais, hypocrite, d'ignorer de quel côté ce sentier enjôleur voulait nous entraîner. Que tu mens bien, Colas. Plus ingénieux qu'Ulysse, tu te bernes toi-même. Tu le sais bien où tu vas. Tu le savais, sournois, dès l'instant que tu sortais de la porte d'Annois. À une heure par là-bas est la ferme de Céline, notre passion d'autrefois. Nous allons la surprendre. Mais qui, d'elle ou de moi, sera le plus surpris? Tant d'années ont passé depuis que je ne la vis. Que sera-t-il resté de son minois malicieux et de sa fine gueulette à ma belette? Je puis bien l'affronter. À présent, n'y a plus de risque qu'elle me grignote le cœur avec ses dents pointues. Mon cœur est desséché, ainsi qu'un vieux sarment. Et a-t-elle encore des dents? Ah, belette, belote, comme elle savait rire et mordre tes quenottes! T'es-tu assez joué de ce pauvre Brugnon? L'as-tu assez fait tourner, virer, virevolter comme un toton? Bah, si cela t'amusait, ma fille, tu as eu raison. Que j'étais un grand veau. Je me revois, bouche bée, appuyée des deux bras, les coudes écartés, sur le mur mitoyen de maître Médard Lagneau, mon patron qui m'a pris le noble art de sculpter. Et de l'autre côté, dans un grand potager contigu à la cour qui servait d'atelier, parmi les plates-bandes de laitues et de fraises, de radis roses, de verts concombres et de melons dorés, allait, pieds nus, bras nus et gorge à demi nue, n'ayant pour tout bagage que ses lourds cheveux roux, une chemise en toile écrue où pointaient ses seins durs et une courte cotte qui s'arrêtait aux genoux. Une belle fille, alerte, balançant des deux mains brunes et vigoureuses deux arrosoirs pleins d'eau sur les têtes feuillues des plantes qui ouvraient leurs petits becs pour boire. Et moi, j'ouvrais le mien, qui n'était point petit, ébahi pour mieux voir. Elle allait, elle venait, versant ses arrosoirs, retournant les emplir ensuite à la citerne, des deux bras à la fois, se relevant comme un jonc et revenant poser avec précaution dans les minces allées sur la terre mouillée ses pieds intelligents aux doigts longs qui semblaient tâter au passage les fraises mûres et les caprons. Elle avait des genoux ronds et robustes de jeune garçon. Je la mangeais des yeux. Elle n'avait point l'air de voir que je la regardais, mais elle s'approchait, versant sa petite pluie. Et quand elle fut tout près, soudain elle me décocha le trait de sa prunelle. Aïe, je sens l'hameçon et le réseau serré des lacs qui m'entortillent. Qu'il est bien vrai de dire que l'œil de la femelle, une araignée, est tel. À peine fus-je touchée, je me débattis. Trop tard, je restais, sotte mouche, collée contre mon mur, les ailes engluées. Elle ne s'occupait plus de ce que je faisais. Sur ses talons assises, elle repiquait ses choux. De temps en temps seulement, d'un clin d'œil de côté, l'astucieuse bête s'assurait que la proie au piège restait prise. Je la voyais ricasser, et j'avais beau me dire « Mon pauvre ami, va-t'en, elle se gausse de toi !» De la voir ricasser, je ricassais aussi. Que je devais donc avoir la face d'un abruti. Brusquement, la voilà qui fait un bond de côté. Elle enjambe une plate-bande, une autre encore, elle court, elle saute, attrape au vol une graine de pissenlit qui voguait mollement sur les ruisseaux de l'air, et, agitant le bras, elle crie, me regardant, « Encore un amoureux de prix !» Se disant, elle fourrait la barque duvetée, dedans l'entrebâillure de sa gorgeronnette, entre ses deux tétins. Moi, qui pour être un sot, ne suis pas de l'espèce des galants morfondus, je lui dis « Mais t'es mis aussi !» Lors, elle se mit à rire, et les mains à ses hanches, droit en face, sur ses jambes écartées, elle me repartit. « Ardé, ce gros goulu! Ce n'est pas pour tes babines que mes pommes mûrissent !» C'est ainsi que je fis, un soir de la fin d'août, connaissance avec elle, la belote, la belette, la belle jardinière. Belette, on la nommait, pour ce que, comme l'autre, la dame au museau pointu, elle avait le corps long et la tête menue, nez rusé de picarde, bouche avançant un peu et bien fendue en fourche, pour rire et pour ronger les cœurs et les noisettes. Mais de ses yeux bleus durs, noyés dans la buée d'un beau temps orageux, et du coin de ses lèvres de faunesse mignarde au sourire mordant, se dévidait le fil dont la rousse araignée tissait sa toile autour des gens. Je passais maintenant la moitié de mon temps, au lieu de travailler, à béer sur mon mur, jusqu'à ce qu'entre mes fesses, le pied de maître Médard, vigoureusement planté, vint me faire descendre sur la réalité. Quelquefois, la belette criait, impatientée, « M'as-tu assez regardé, par devant, par derrière? Qu'en veux-tu voir de plus? Tu dois pourtant me connaître !» Et moi, clignant de l'œil finement, je disais, « Femme et melon, à peine les connoît-on !» Que j'en eusse volontiers découpé une tranche. Peut-être un autre fruit eût-il aussi fait l'affaire. J'étais jeune, le sang chaud, épris des 11 000 vierges. Était-ce elle que j'aimais? Il y a des heures dans la vie où l'on serait amoureux d'une chèvre coiffée. Mais non, Brugnon, tu blasphèmes, tu n'en crois pas un mot. La première qu'on aime, c'est la vraie, c'est la bonne, c'est celle qu'on devait aimer. Les astres l'avaient fait naître pour vous désaltérer. Et c'est probablement parce que je ne l'ai pas bu que j'ai soif, toujours soif, et l'aurai toute ma vie. Comme nous nous entendions. Nous passions notre temps à nous asticoter. Nous avions tous les deux la langue bien pendue. Elle me disait des injures, et moi, pour un boisseau, j'en rendais un setier. Tous deux, l'œil et la dent prompts à mordre le morceau. Nous en rions parfois, jusqu'à nous étrangler. Et elle, pour rire, après une méchanceté, se laissait choir à terre, assise à croupetons, comme si elle voulait couver ses raves et ses oignons. Le soir, elle venait causer près de mon mur. Je la vois, une fois, tout en parlant et riant, avec ses yeux hardis, qui cherchaient dans mes yeux le défaut de mon cœur, pour le faire crier. Je la vois, bras levés, attirant une branche de cerisier, chargée de rouges pendeloques, qui formaient une guirlande autour des cheveux roux. Et sans cueillir les fruits, les becquetant à l'arbre, gorge tendue, bec en l'air, en laissant les noyaux. Image d'un instant, éternelle et parfaite. Jeunesse, jeunesse avide qui tète les mamelles du ciel. Que de fois j'ai gravé la ligne de ces beaux bras, de ce cou, de ces seins, de cette bouche gourmande, de cette tête renversée, sur les panneaux de meubles, en un rinceau fleuri. Et penchée sur mon mur, tendant le bras, je pris violemment, j'arrachai la branche qu'elle broutait, j'y appliquai ma bouche, je suçai goulûment les humides noyaux. Nous nous retrouvions aussi le dimanche à la promenade ou à la cave de Baugis. Nous dansions. J'avais la grâce de maître Martin Bâton. Amour me donnait des ailes. Amour apprend, dit-on, aux ânes à danser. Je crois qu'à aucun instant nous ne cessions de batailler. Qu'elle était agaçante! M'en a-t-elle dégoisé, des malices mordantes, sur mon long nez de travers, ma grande gueule bâillante, où l'on eût pu, dit-elle, faire cuire un pâté, ma barbe de savetier, et toute cette mienne figure que monsieur mon curé prétend faite à l'image du Dieu qui m'a créé. Quelle pinte de rire, alors, quand je le verrai! Elle ne me laissait pas une minute de repos, et je n'étais non plus ni bègue ni manchot. À ce jeu prolongé, nous commencions tous deux, vrai Dieu, à nous échauffer. Te souviens-tu, Colas, des vendanges en la vigne de maître Médard l'agneau? Belette était conviée. Nous étions côte à côte courbés dans les perchers. Nos têtes se touchaient presque, et ma main, quelquefois, en dépouillant un cep, rencontrait par mégarde sa croupe ou son mollet. Alors elle relevait sa face enluminée. Comme une jeune pouliche, elle m'appliquait une ruade ou me barbouillait le nez avec le jus d'une grappe. Et moi, je lui en écrasais une, juteuse et noire, sur sa gorge dorée que le soleil brûlait. Elle se défendait ainsi qu'une diablesse. J'avais beau la presser, jamais je ne réussis une fois à la prendre. Chacun de nous guettait l'autre. Elle attisait le feu et me regardait brûler en me faisant la nique. « Tu ne mourras pas, Colas !» Et moi, l'air innocent et tapis sur mon mur, gros chat ramassé en boule qui fait celui qui dort, et par l'étroite raie des paupières entr'ouvertes, épie la souris qui danse, je me pourléchais d'avance. Rira bien le dernier. Or, un après-midi, c'était en ce mois-ci, tout à la fin de mai, mais il faisait alors bien plus chaud qu'aujourd'hui. L'air était accablant. Le ciel blanc vous soufflait son haleine brûlante comme la gueule d'un four. Dedans ce nid blotti, depuis presque une semaine, l'orage couvait ses œufs qui ne voulaient pas éclore. On fondait de chaleur. Le rabot était en eau et mon vil brequin me collait dans la main. Je n'entendais plus Belote qui, tout à l'heure, chantait. Je la cherchais des yeux. Dans le jardin, personne. Soudain, je la vis là-bas, à l'ombre de la cabane, assise sur une marche. Elle dormait, bouche ouverte, la tête renversée, sur le seuil de la porte. Un de ses bras pendait le long de l'arrosoir. Le sommeil l'avait brusquement terrassée. Elle s'offrait sans défense, tout son corps étalé, demi-nue et pâmée sous le ciel enflammé, comme une Danaé. Je me crus Jupiter. J'escaladai le mur, j'écrasai en passant les choux et les salades, je la pris à plein bras, je la baisai à pleine bouche. Elle était chaude et nue et mouillée de sueur. À demi endormie, elle se laissait prendre, gonflée de volupté. Et sans rouvrir les yeux, sa bouche cherchait ma bouche et me rendait mes baisers. Que se passa-t-il en moi? Quelle aberration! Le torrent du désir me coulait sous la peau. J'étais ivre, j'étreignais cette chair amoureuse. La proie que je convoitais, l'alouette rôtie me venait choir dans le bec. Et voici, grande bête, que je n'osais plus la prendre. Je ne sais quel scrupule stupide me saisit. Je l'aimais trop. Il m'était pénible de penser que le sommeil la liait, que je tenais son corps et non pas son esprit. Et que ma fière jardinière, je ne la devrais donc qu'à une trahison. Je m'arrachai au bonheur. Je dénouai nos bras, nos lèvres et les liens qui nous tenaient rivés. Ce ne fut pas sans peine. L'homme est feu et la femme est toupe. Nous brûlions tous les deux. Je tremblais et soufflais comme cet autre sot qui vainquit Antiope. Enfin, je triomphai, c'est-à-dire que je m'enfuis. À 35 ans de là, le rouge m'en monte au front. Ah, jeunesse imbécile! Qu'il est bon de penser qu'on a été si bête et que cela fait frais au cœur. À partir de ce jour, elle fut avec moi une diablesse incarnée. Fantasque autant que trois troupeaux de chèvres capricantes, plus que nuées changeantes. Un jour, elle me dardait à mépris insultant, ou bien elle m'ignorait. Un autre m'arquebusait de regards langoureux, de rires enjôleurs. Caché derrière un arbre, me visait sournoisement avec une motte de terre s'écrasant sur ma nuque quand j'avais le dos tourné. Ou, pan sur le pif, avec un noyau de prune lorsque je levais le nez. Et puis, à la promenade, elle caquetait, coquetait et coquericotait avec l'un, avec l'autre. Le pire est qu'elle s'avisa, pour mieux me dépiter, de prendre au trébuchet un autre merle de ma sorte, mon meilleur compagnon, Kyrias Pinon. Nous étions, lui et moi, les deux doigts de la main. Tels Oreste et Pylade, il n'était pas de rixes, noces ou festins où l'on vit l'un sans l'autre, s'escrimant de la gueule, du jarret et du poing. Il était noueux comme un chêne, trapu, carré d'épaule et carré du cerveau, franc de la langue et franc du collier. Il eût tué quiconque m'eût voulu chercher noise. Ce fut lui, justement, qu'elle choisit pour me nuire. Elle n'eut pas grand-peine. Il suffit de 4 yards et d'une demi-douzaine des coutumières grimaces. Joué de l'air innocent, langoureux, effronté, ricaner, chuchoter ou faire la sucrée, scier, battre des paupières, montrer les dents, sa lèvre mordre ou bien la pourlécher de sa langue pointue, se tortiller le cou, se dandiner les hanches et hocher le croupion comme une bergeronnette. Quel est le fils d'Adam qui ne se laisserait prendre aux petites manigances de la fille du serpent? Pinon en perdit le peu qu'il avait de raison. Dès lors, nous fûmes deux perchés sur notre mur, pantelans et pantois, à guetter la belette. Sans desserrer les dents, déjà nous échangions des regards furieux. Elle attisait le feu, et pour mieux l'exciter, l'aspergeait par moments d'une douche d'eau glacée. Quel que fût mon dépit, je riais de l'arrosage. Mais Pinon, ce grand cheval, en piaffait dans la cour. Il en jurait de rage, sacrait, menaçait, tempêtait. Il était incapable de comprendre une plaisanterie, à moins qu'il ne l'eût faite. Et personne en ce cas ne la comprenait que lui, mais il en riait pour trois. La donzelle, cependant, comme une mouche sur du lait, se délectait, buvant ses injures amoureuses. Cette rude manière différait de la mienne. Et quoique cette gauloise matoise, bonne raillarde, gaillarde, fût bien plus près de moi que de cet animal hennissant, se cabrant, ruadant, pétaradant, par divertissement, par amour du changement, et pour me faire damner, elle n'avait que pour lui de regards prometteurs, de sourires alléchants. Mais lorsqu'il s'agissait de tenir ses promesses, et que déjà le sot, fanfaron, s'apprêtait à sonner sa fanfare, elle lui riait au nez et le laissait quinaud. Moi, je riais aussi, bien entendu. Et Pinon, dépité, tournait contre moi sa rage. Et il me soupçonnait de lui souffler sa belle. Advint que certains jours, il me pria tout net de lui céder la place. Je dis avec douceur, « Frère, j'allais justement te faire la même prière. » « Alors, frère, dit-il, faut se casser la tête. »« J'y pensais, répondis-je, mais, Pinon, il m'en coûte. »« Moins qu'à moi, mon brugnon, va-t'en donc, s'il te plaît. C'est assez d'un seul coq dans un seul poulailler. »« D'accord, dis-je, va-t'en, toi, car la poule est à moi. »« À toi ? Tu as menti, cria-t-il, paysan, cutéreux et mangeux de cahiers. Elle est mienne, je la tiens, nul autre n'y goûtera. Mon pauvre ami, je réponds, tu ne t'es donc pas regardé. Auvergnat, croque-navet, à chacun son potage. Ce fin gâteau de Bourgogne est à nous. Il me plaît, j'en suis affriandé. N'y a point de part pour toi, va déterrer tes raves. De menace en menace, nous en vînmes au coup. Pourtant, nous avions regret, car nous nous aimions bien. « Écoute, me dit-il, laisse-la-moi, brugnon, c'est moi qu'elle préfère. »« Nenni, dis-je, c'est moi. »« Eh bien, demandons-lui, l'évincé s'en ira. »« Top là, qu'elle choisisse. » »« Oui, mais... » Allez donc demander à une fille qu'elle choisisse. Elle a trop de plaisir à prolonger l'attente, qui lui permet de prendre en pensée l'un et l'autre, et de n'en prendre aucun, et de tourner, retourner sur le grill ses galants. Impossible de la saisir. Quand nous lui en parlions, Belette nous répondait par un éclat de rire. Nous revînmes à l'atelier, nous mîmes bas nos vestes. « N'est plus d'autre moyen. Il faut que l'un de nous crève, Au moment de s'empoigner, Pinon me dit « Bige-moi !» Nous nous embrassâmes deux fois. « Maintenant, allons-y !» La danse commença. Nous y allions tous deux à bon jeu, bon argent. Pinon m'assénait les coups à m'enfoncer le crâne sur les yeux. Et moi, je lui défonçais le ventre à coups de genoux. N'est rien tel que d'être ami pour bien être ennemi. Au bout de quelques minutes, nous étions tout en sang. Et de rouges rigoles, ainsi que vieux Bourgogne, nous ruisselaient du nez. Ma foi, je ne sais pas comment cela eût tourné, mais sûrement l'un des deux eût eu la peau de l'autre, si, par grande fortune, les voisins ameutés et maître Médard l'agneau, qui rentrait au logis, ne nous eussent séparés. Ce ne fut point commode. Nous étions comme des dogues. Il fallut nous rosser pour nous faire lâcher prise. Maître Médard dut prendre un fouet de charretier. Il nous sangla, gifla, puis enfin raisonna. Après le coup, Bourguignon sage. Quand on s'est bien cardé, on devient philosophe. Il est bien plus aisé d'écouter la raison. Nous n'étions pas très fiers quand nous nous regardions. Et c'est alors qu'advint le troisième larron. Gros meunier, rat et roux, hure ronde, Jean Giflard. Joue enflée, petits yeux enfoncés, il avait toujours l'air d'emboucher la trompette. « Que voilà de beaux coqs ! » dit-il en s'esclaffant. « Ils seront bien avancés, quand pour cette géline, ils se seront mangés la crête et les rognons. Niquedouille ! Ne voyez-vous donc pas qu'elle se rengorge d'aise quand vous vous chantez pouille ? Il est plaisant, parbleu, pour une de ces femelles de traîner à ses côtes une harde amoureuse qui brame après sa peau. Voulez-vous un bon conseil ? Je vous le donne pour rien. Faites la paix entre vous. Moquez-vous d'elle, enfant, elle se moque de vous. Tournez-lui les talons et partez, tous les deux. Elle sera bien mariée. Faudra bon gré, maugré gré, qu'elle fasse enfin son choix, et nous verrons alors qui des deux elle veut. Allons, ouste, filez, point de retard, tranchons le vif. Courage, suivez-moi, gens de bien. Tandis que traîneraient vos savates poudreuses sur les routes de France, moi, je reste, compagnon, je reste pour vous servir. Faut céder, entre frères. J'épierai la donzelle, je vous tiendrai au courant de ses lamentations. Dès qu'elle aura choisi, je préviendrai le gagnant, et l'autre ira se faire pendre. Et là-dessus, allons boire. Boire et boire noie la soif, l'amour et la mémoire. Nous les noyâmes si bien, nous bûmes comme des bottes, que le soir de ce jour, au sortir du bouchon, nous fîmes notre paquet, nous prîmes notre bâton, et nous voilà partis. Par une nuit sans lune, moi et l'autre niais, glorieux comme deux paix, et plein de gratitude envers ce bon Giflard, qui se dilatait d'aise, et dont les petits yeux, sous les grasses paupières, dans la face luisante comme rillette, riaient. Nous fûmes moins glorieux le lendemain matin. Nous n'en convenions point, nous faisions les malins, mais chacun ruminait, ruminait, et ne comprenait plus l'étonnante tactique, pour prendre une place forte, d'avoir foutu le camp. À mesure que le soleil roulait dans le ciel rond, nous nous trouvions tous deux de plus en plus jocrisses. Quand le soir fut venu, nous nous guettions de l'œil, parlant négligemment de la pluie et du beau temps, pensant « Mon bon ami, comme tu parles bien ! Cependant, tu voudrais me fausser compagnie, mais il n'y a point de risque. Je t'aime trop, mon frère, pour te laisser tout seul. Où que tu ailles, masque, je le sais, je le sais. Je t'emboîte le pas. » Après maintes ruses, afin de nous dépister, nous ne nous quittions plus, même pour aller pisser. Au milieu de la nuit, nous feignions de ronfler, mordus sur la paillasse par l'amour et les puces. Pinon sauta du lit et cria « Vain bon Dieu, je cuis, je cuis, je cuis, je n'en peux plus, je m'en retourne. » Moi, je dis « Retournons. » Nous mîmes un jour entier à revenir chez nous. le soleil se couchait. Jusqu'à ce que vint la nuit, nous restâmes cachés dans les bois du marché. Nous ne tenions pas beaucoup à ce qu'on nous vit entrer. On eut daubé sur nous, et puis voulions surprendre la belette d'Olante, seule, pleurant, s'accusant. « Hélas, mamie, mamie, pourquoi es-tu partie ?» Qu'elle s'en mordit les doigts et soupira, nous le doute. Mais qui était l'ami ? Chacun répondait, « Moi !» Or, arrivé sans bruit le long de son jardin, une sourde inquiétude nous picotait le sein. Sous sa fenêtre ouverte et baignée par la lune, à la branche d'un pommier, nous vîmes accrochés. Que croyez ? Une pomme ? Un chapeau de meunier ? Vous conterai-je la suite ? Bonnes gens, vous seriez trop aise. Je vous vois, farceur, qui vous épanouissez. Le malheur du voisin est pour vous divertir. Cocus sont toujours contents que croisse la confrérie. Kyrias prit son élan et bondit comme un daim. Il en avait les cornes. Fonça sur le pommier aux fruits enfarinés, escalada le mur, s'engouffra dans la chambre, d'où sortirent aussitôt des cris, des glapissements, des mugissements de veaux, des jurons. « Vestugois, ventregois, sacripant, sacre-dieu, au meurtre, à mort, à l'aide, cocu, coquin, coquard, catin, crottin, cafard, crapaud, croquant, carcan. Je t'essorillerai, je te boyauderai, je t'en baillerai de verte, des murs et des blettes, je te talerai de derrière. Attrape, face à Clistère. » Et des beugnes, et des bignes, et vlans, et pans, et rangs, patatras, vitres brisées, vaisselle cassée, meubles qui croulent, gros corps qui roulent, filles qui piaillent, matins qui braillent. À cette musique diabolique, soufflez, ménestrier, vous pensez si l'on vit le quartier ameuté. Je ne m'attardai point à regarder la suite, j'en avais assez vu. Je repris le chemin par où j'étais venu, riant d'un œil et de l'autre pleurant, l'oreille basse et le nez au vent. « Ben, mon Colas, disais-je, tu l'as échappé belle. » Et tout au fond de lui, Colas était penaud de n'avoir pas au piège pu laisser ses ouseaux. Je faisais le farceur, je me remémorais tout le charivari, je mimais l'un puis l'autre, le meunier, la fille, l'âne. Je poussais des soupirs à me décrocher l'âme. Hélas, que c'est plaisant, que mon cœur a de peine. Ah, j'en mourrais, disais-je, de rire, non, de douleur. Qu'il s'en est fallu de peu que cette petite gueuse ne me mît sous le bas mariteux et piteux. Eh, que ne l'a-t-elle fait? Que ne suis-je cocu? Du moins, je l'aurais eu. C'est déjà quelque chose d'être batté par ce qu'on aime. Dalila, Dalila, atradiridera. 15 jours durant, je fus ainsi tiraillé entre l'envie de rire et l'envie de larmoyer. Je résumais, à moi seul, en ma face de travers, toute la sagesse antique, Héraclite le pleurard et Démocrite hilar. Mais les gens, sans pitié, me riaient tous au nez. À de certaines heures, quand je pensais à mamie, je me serais fait périr. Ces heures ne duraient guère. Par bonheur, il est très beau d'aimer. Mais par Dieu, mes amis, c'est trop aimer quand on en meurt. Bon pour les Amadis et pour les Galaors. Nous ne sommes pas en Bourgogne des héros de romans. Nous vivons. Quand on nous a fait naître, on ne nous a pas demandé si cela nous agréait. Nul ne s'est informé si nous voulions la vie. Mais puisque nous y sommes, nom d'un bonhomme, j'y reste. Le monde a besoin de nous. À moins que ce ne soit nous qui ayons besoin de lui. Qu'il soit bon ou mauvais, pour que nous le quittions, faut qu'on nous mette dehors. Vin tiré, faut le boire. Vin bu, tirons-en d'autres de nos coteaux mamelus. On n'a pas le temps de mourir quand on est bourguignon. Pour ce qui est de souffrir, tout aussi bien que vous, Ne soyez pas si fière. Nous nous en acquittons. Pendant 4 ou 5 mois, j'ai souffert comme un chien. Et puis, le temps nous passe et laisse nos chagrins, trop lourds, sur l'autre rive. À présent, je me dis, c'est comme si je l'avais eu. Ah, Belette, Belote, tout de même, je ne l'ai point eu. Et c'est ce tripé en douille, giflard, sac à farine, face de potiron, qui l'a pelote, la mignotte, Belote, depuis 30 ans passés. 30 ans. Son appétit doit être rassasié. À ce que l'on m'a dit, il n'en avait plus guère dès le lendemain du jour où il l'a épousée. Pour ce goulu, ce glou, morceau avalé n'a plus goût. Sans le charivari qu'il fit au nid, trouver maître coucou. Ah, Pinon, le braillard! Jamais les cornifleurs ne se fût laissé pincer à mettre son gros doigt en anneau trop étroit. Yo, hymen, hyméné, bien attrapé, ma foi. Plus attrapé, Belette, car meunier mécontent se paie sur sa bête. Et le plus attrapé des trois, c'est encore moi. Or donc, Brognon, rions, il y a bien de quoi, de lui, d'elle et de moi. Et voici qu'en riant, j'aperçus à 20 pas, au détour de l'allée, grand Dieu, aurais-je bavardé 2 heures d'affilée, la maison au toit rouge, volet vert, dont un cep sinueux de vigne, comme un serpent, vêtait le ventre blanc de ses feuilles pudiques. Et devant la porte ouverte, à l'ombre d'un noyer, sur une auge de pierre où coulait une eau claire, une femme inclinée, que je reconnus bien. Pourtant, je ne l'avais point revue depuis des années. Et j'eus les jambes cassées. Je faillis détaler, mais elle m'avait vue, et elle me regardait, en continuant de puiser de l'eau à la fontaine. Et voilà que je vis qu'elle aussi, brusquement, elle m'avait reconnu. Oh, elle n'en montra rien, elle était bien trop fière. Mais le seau qu'elle tenait coula de ses mains dans l'auge, et elle dit, « Jean de Lagny, qui n'a point de hâte, ne te presse donc pas. » Moi, je réponds, « C'est-y que tu m'attendais ?»« Moi, » dit-elle, « je n'ai garde, je me soucie bien de toi. »« Ma foi, » dis-je, « c'est comme moi. » Tout de même, je suis bien aise. Et tu ne me gênes point. Nous étions là plantés, l'un en face de l'autre, elle avec ses bras mouillés, moi en manche de chemise, nous dandinant tous deux. Et nous nous regardions, et nous n'avions même pas la force de nous voir. Au fond de la fontaine, le seau continuait de boire. Elle me dit, « Entre donc, tu as bien un moment. » « 1 minute ou 2, je suis un peu pressée. »« On ne s'en douterait guère. Qu'est-ce donc qui t'amène ?»«
Moi, rien, » fis-je avec aplomb. « Rien, je me promène. »«
Tu es donc bien riche, » dit-elle.
« Riche, non de pécune, mais de ma fantaisie. »«
Tu n'as pas changé, » dit-elle. « Tu es toujours le même fou. »
Qui folle naquit, jamais ne guérit.
Nous entrâmes dans la cour. Elle referma la porte. Nous étions seuls au milieu des poules qui caquetaient. Tous les gens de la ferme étaient allés aux champs. Pour se donner une contenance, aussi par habitude, elle crut bon d'aller fermer, ou bien ouvrir, je ne sais plus au juste, la porte de la grange en gourmandant Médor. Et moi, afin de prendre une mine dégagée, je parlais de sa maison, des poulets, des pigeons, du coq, du chien, du chat, des canards, du cochon. J'aurais énuméré, si elle m'eût laissé, toute l'arche de Noé. Soudain, elle me dit, « Brognon !» J'eus le souffle coupé, elle répéta, « Brognon !» Et nous nous regardions. « Embrasse-moi » dit-elle. Je ne me fis pas prier. Lorsqu'on est si vieux, ça ne fait de mal à personne, si ça ne fait plus grand bien. Ça fait toujours du bien. De sentir sur mes joues, sur mes vieilles joues râpeuses, ces vieilles joues fripées, cela me démangea les yeux d'une envie de pleurer.
mais je ne pleurai point, je ne suis pas si bête. Elle me dit « Tu piques !»« Ma foi, dis-je, ce matin, si l'on avait appris que je t'embrasserais, je me serais fait le menton. Ma barbe était plus douce il y a 35 années, quand je voulais. Toi, non. Quand je voulais, ma bergère, et rond, petit patapon, la frotter contre ton menton. »
Tu y penses donc toujours ?
Dit-elle. Ni, je n'y pense jamais.
Nous nous fixâmes en riant à qui ferait des deux baisser les yeux des autres.
Orgueilleux, entêté, caboche de mulet, comme tu me ressemblais, dit-elle.
Mais toi, Grison, tu ne veux point vieillir.
Certes, Brognon, mon ami, tu n'as point embelli. Tu as les pattes d'oie, ton nez s'est élargi.
Mais comme tu ne fus beau en aucun temps de ta vie, tu n'avais rien à perdre, et tu n'as rien perdu.
Pas même un de tes cheveux, j'en jurerais, égoïste. C'est à peine si ton poil, ça et là, est plus gris.
Je dis, tête de fou, tu le sais, ne blanchis.
Vaurien d'homme, vous autres, vous ne vous faites point de bile, vous prenez du bon temps.
Mais nous, nous vieillissons pour deux.
Vois cette ruine. Hélas, hélas, ce corps si ferme et doux à regarder, plus doux à caresser, cette gorge, ces seins, ces reins, ce teint, cette chair savoureuse et dure comme un jeune fruit. Où sont-ils? Et où suis-je? Où me suis-je perdu?
M'aurais-tu reconnu seulement si tu m'avais rencontré au marché?
Entre toutes les femmes, je t'aurais reconnu, dis-je. Les yeux fermés.
Les yeux fermés, oui, mais ouverts. Regarde ces joues creusées, cette bouche édentée, ce long nez aminci en lame de couteau, ces yeux rougis, ce cou flétri, cet outre flasque, ce ventre déformé.
Je dis, j'avais bien vu tout ce qu'elle racontait. Petite brebiette, toujours semble jeunette.
Tu ne remarques donc rien?
J'ai de bons yeux, belette.
Hélas, où a-t-elle passé, ta belette, ta belette?
Je dis, elle a passé par ici, le furet du Bois Joli.
Elle se cache, elle fuit, elle s'est retirée.
Mais je la vois toujours. Je vois son fin museau et ses yeux de malice qui me guettent et m'attirent au fond de son terrier.
Il n'y a point de risque, dit-elle, que tu y entres. Renard, que tu as pris de panse.
Certes, chagrin d'amour ne t'a point fait maigrir.
Je serais bien avancé, dis-je. Le chagrin, faut le nourrir.
Viens donc faire boire l'enfant. Nous entrâmes à la ferme et nous nous attablâmes. Je ne sais plus trop bien ce que je bus ou mangeais. J'avais l'âme occupée. Mais je n'en perdis point un coup de dent ni de gosier. Les coudes sur la table, elle me regardait faire. Puis, elle dit en raillant, « Es-tu moins affligée ?»«
Comme dit la chanson, fis-je, corps vide, âme désolée, et bien repu, âme consolée. »
Sa grande bouche mince et moqueuse se taisait. Et tandis que pour faire le pharo, je disais je ne sais quoi, des sornettes, nos yeux se regardaient et pensaient au passé.
Soudain, « Brognon, dit-elle, sais-tu, je ne l'ai jamais dit, je peux bien le faire maintenant que cela ne sert plus à rien. C'est toi que j'aimais. »
Je dis, « Je le savais bien. »
« Tu le savais, vaurien, et que ne me l'as-tu dit ?»
Esprit de contradiction, il eût suffi que je le dise pour que tu répondisses non.
Qu'est-ce que cela pouvait te faire si je pensais le contraire? Est-ce la bouche qu'on baise, ou bien ce qu'elle dit?
C'est que la tienne, pardi, ne se contentait pas de dire. J'en ai su quelque chose, cette nuit que trouvait en ton four le meunier.
C'est ta faute, dit-elle. Le four ne chauffait pas pour lui.
Certes, c'est la mienne aussi, mais je fus bien punie. Toi qui sais tout, Colas. Tu ne sais pourtant pas que je l'ai pris par dépit de ce que tu es parti.
Ah, comme je t'en ai voulu. Je t'en voulais déjà ce soir.
T'en souviens-tu que tu m'as dédaigné? « Moi ?» dis-je. « Toi, Pandare, quand tu m'es venu cueillir dans mon jardin un soir que j'étais endormie, et puis que tu m'as laissé à l'arbre avec mépris. » Je poussais Léo au cri et je lui expliquais. Elle me dit « J'ai bien compris, ne te donne pas tant de peine, grande bête. Je suis sûre que si c'était à refaire... » Je dis « Je le referai. » « Imbécile ! » fit-elle. « C'est pour cela que je t'aimais. Alors, pour te punir, je me suis amusée à te faire souffrir. Mais je ne pense pas que tu serais assez sot pour t'enfuir de l'hameçon. Que les hommes sont lâches, au lieu de l'avaler. » « Grand merci, » dis-je. « Goujon aime la part, mais tient à ses boyaux. » Riant du coin de ses lèvres serrées, sans ciller. « Quand j'ai su, » reprit-elle, « ta rixe avec cet autre animal dont je ne sais plus le nom. J'étais en train de laver mon linge à la rivière. On me dit qu'il t'égorgeait. Je lâchai mon battoir. Vogue la galère, qui alla au fil de l'eau et, piédinant mon linge, culbutant mes commères, je courus sans sabots, courus à perdre haleine. Je voulais te crier. « Brugnon, tu n'es pas fou. Tu ne vois donc pas que je t'aime. Tu seras bien avancé quand tu te seras fait happer un de tes meilleurs morceaux par la gueule de ce loup. Je ne veux point d'un mari détranché et disloqué. Je te veux tout entier. » Ah, l'endéridera, l'enlair, l'enturlu. Tandis que je faisais tous ces lentiponnages, ce maître hurluberlu lampait au cabaret, ne savait déjà plus pourquoi s'était battu, et bras dessous, avec le loup s'enfuit. Ah, le lâche, fuis devant la brebis. Brugnon, que je t'ai haï! Bonhomme, quand je te vois, quand je nous vois aujourd'hui, cela me paraît comique. Mais alors, mon ami, je t'aurai avec délice écorché, grillé vif. Et ne pouvant te punir, c'est moi, puisque je t'aimais, c'est moi que je punis. L'homme au moulin s'offrit. Dans ma rage, je le pris. Si ce n'eût été cet âne, j'en aurais pris un autre. Faute d'un martin bâton, l'abbaye n'eût point chômé. Ah, comme je me vengeais! Je ne pensais qu'à toi, tandis qu'il... Je t'entends. Tandis qu'il me vengeait, je pensais qu'il revienne à présent. Le chef te démange-t-il, Brugnon? En as-tu ton compte? Qu'il revienne, qu'il revienne. Hélas, tu es revenu, plus tôt que je n'aurais voulu. Tu sais la suite. À mon seau, je me trouvais attaché pour la vie. Et l'âne, est-ce lui ou moi, est resté au moulin. Elle se tut. Je dis « Au moins, y es-tu bien ?» Elle haussa les épaules et dit « Aussi bien que l'autre. »« Diable, » fis-je, « cette maison doit être un paradis. » Elle rit. « Mon ami Carabi, tu l'as dit. » Nous parlâmes d'autre chose, de nos champs et de nos gens, de nos bêtes et de nos enfants. Mais quoi que nous fissions, nous retournions au galop, retournions à nos moutons. Je pensais qu'elle serait bien aise de connaître les détails de ma vie, des miens, de ma maison. Mais je vis, oh femelle curieuse, qu'elle en savait là-dessus presque aussi long que moi. Puis, de fil en aiguille, voilà que l'on babille, de ci, de là, à gauche, à dextre, contre mont, contre bas, pour la joie de jaser, sans savoir où l'on va. Tous deux, à qui mieux de dire des calembres d'aine. C'était un feu roulant, on en perdait haleine. Et point n'était besoin d'insister sur les mots. Devant qu'il fût sorti encore du fourneau, était happé tout chaud. Après avoir bien ri, je m'essuyai les yeux lorsque j'entends sonner 6 heures au clocher. « Bon Dieu, dis-je, je m'en vas. »« Tu as le temps, » dit-elle. « Ton mari va rentrer. À le voir, je ne tiens pas. »« Et moi donc ?» répond-elle. Par la fenêtre de la cuisine, on voyait la prairie, qui déjà commençait sa toilette du soir. Les rayons du soleil couchant frottaient de leur poussière d'or les milliers de brins d'herbe au petit nez frémissant. Sur les galets polis, un ruisselet sautait. Une vache léchait une branche de saule. Deux chevaux immobiles, l'un noir, une étoile au front,
l'autre grippe au mulet. L'un appuyant sa tête sur la croupe de l'autre, rêvait dans la paix du jour, après avoir brouté. Entrait dans la maison fraîche une odeur de soleil, de lilas, d'herbes chaudes et de crottins dorés. Et dans l'ombre de la chambre, profonde, moelleuse, fleurant un peu le moisi, montée de la tasse de grès que je tenais au poing, l'arôme affectueux du cassis bourguignon. Je dis « Qu'on est bien ici !» Et j'eût été ainsi tous les jours de la vie. Elle me saisit la main. Je dis, cela m'ennuyait d'être venue la voir pour lui faire des regrets. « Oh, tu sais, ma belette, c'est peut-être mieux tout compte fait. C'est peut-être mieux comme ça est. Tu n'y as rien perdu. Pour un jour, ça va bien. Mais pour toute la vie, je te connais, je me connais. Tu en aurais vite assez. Tu ne sais pas quel mauvais diable je fais. Chenapan, fainéant, pochard, paillard, bavard, étourdi, entêté, goinfre, malicieux, querelleux, songe creux, colérique, lunatique, diseur de billes vesées. Tu aurais été ma fille, malheureuse comme les pierres, et tu te serais vengée. D'y penser seulement, mes cheveux se hérissent des deux côtés de mon front. Louange à Dieu qui sait tout. Tout est bien comme il est. Son regard sérieux et madré m'écoutait. Elle hocha du nez et fit « Tu dis vrai, Jacquet. Je le sais, tu es un grand vaurien. » Elle n'en pensait rien. « Sans doute, tu m'aurais battu. Moi, je t'aurais fait cocu. Mais que veux-tu? Puisque aussi bien faut être l'un et l'autre en ce monde, c'est écrit dans les cieux, n'eût-il pas mieux valu que ce fût l'un par l'autre ?» « Sans doute, fis-je, sans doute. Tu n'as pas l'air convaincu. »« Je le suis, dis-je. Tout de même, de ce double bonheur, faut savoir se passer. » En me levant, je conclus. « Point de regret, belette. D'une façon ou de l'autre, à présent, ce serait de même. Qu'on ne s'aime pas ou qu'on s'aime, quand on est comme nous au bout de son rouleau. C'est passé, c'est passé. » C'est comme s'il n'y avait rien eu. Elle me dit « Menteur !» Et comme elle disait vrai. Je l'embrassai. Je partis. Des yeux, elle me suivit sur le seuil appuyé au chambranle de la porte. L'ombre du grand noyer s'allongeait devant nous. Je ne me retournai pas que je n'eusse tourné le coude du chemin et que je ne fusse bien sûr que je ne verrais plus rien. Alors, je m'arrêtai pour reprendre mon souffle. L'air était embaumé d'un berceau de glycine, et les bœufs blancs, au loin, mugissaient dans les prés. Je me remis en marche, et, coupant au plus court, je laissai le chemin, je gravis le coteau, je partis à travers vignes et m'enfonçai sous bois. Ce n'était pourtant pas afin de revenir plus vite, car une demi-heure après, je me trouvais toujours à la lisière du bois, sous les ramures d'un chêne, immobile, debout et bâillant aux corneilles. Je ne savais ce que je faisais. Je pensais. Le ciel rouge s'éteignait. Je regardais mourir ses reflets sur les vignes aux petites feuilles nouvelles, brillantes, vernissées, vineuses et dorées. Un rossignol chantait. Au fond de ma mémoire, dans mon cœur attristé, un autre rossignol chantait. Un soir, pareil à celui-ci, j'étais avec mamie. Nous montions un coteau que tapissaient les vignes. Nous étions jeunes, joyeux, grands parleurs et rieurs. Soudain, je ne sais pas ce qui se passa dans l'air. Le souffle de l'Angélus, l'haleine de la terre dans le soir, qui s'étire et soupire, et vous dit « Viens à moi !» La douce mélancolie qui tombe de la lune. Nous avons fait silence, tous deux, et tout d'un coup nous prîmes la main, et sans nous dire un mot, et sans nous regarder, nous restions immobiles. Alors monta des vignes, sur lesquelles la nuit de printemps s'était posée, la voix du rossignol. Pour ne pas s'endormir sur les ceps, dont les vrilles traîtresses s'allongeaient, autour de ses petons, à s'enrouler, cherchait, pour ne pas s'endormir, chantait à perdre haleine sa vieille cantilène, le rossignol d'amour. La vigne pousse, 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 je ne dors ni nuit ni jour. Et je sentis la main de Belette qui disait « Je te prends et je suis prise. Vigne, pousse, pousse et nous lis. » Nous descendîmes la colline. Près de rentrer, nous nous déprîmes. Depuis lors, plus ne nous prîmes. Ah, rossignol, tu chantes toujours. Pour qui ton chant? Vigne, tu pousses. Pour qui tes liens, amour? Et la nuit était là. Et le nez vers le ciel, je regardais, appuyé des fesses sur les mains, des mains sur mon bâton, comme un pic sur sa queue. Je regardais toujours vers le faîte de l'arbre où fleurissait la lune. J'essayais de m'arracher au charme qui me tenait. Je ne pus. Sans doute l'arbre me liait de son ombre magique qui fait perdre la route et le désir de la trouver. Une fois, deux fois, trois fois, je fis le tour. Je le refis. À chaque fois, je me revis, au même point, enchaîné. Lors, j'en pris mon parti, et m'étendant sur l'herbe, je logeai, cette nuit, à l'enseigne de la lune. Je ne dormis pas beaucoup dans cette hôtellerie. Mélancoliquement, je ruminais ma vie. Je pensais à ce qu'elle aurait pu être, à ce qu'elle avait été, à mes rêves écroulés. Dieu, que de tristesse on trouve au fond de son passé, dans ces heures de la nuit où l'âme est affaiblie. Qu'on se voit pauvre et nu, quand se lève devant la vieillesse déçue l'image de la jeunesse d'espérance vêtue. Je récapitulais mes comptes et mes mécomptes, et les maigres richesses que j'ai dans mon escarcelle. Ma femme, qui n'est point belle, est bonne tout autant. Mes fils, qui sont loin de moi, ne pensent rien comme moi, n'ont de moi que l'étoffe. Les trahisons d'amis et les folies des hommes. Les religions meurtrières et les guerres civiles, ma France déchirée, les rêves de mon esprit, mes œuvres d'art pillées, ma vie, une poignée de cendres et le vent de la mort qui vient. Et pleurant doucement, mes lèvres appuyées contre le flanc de l'arbre, je lui confiai mes peines, blottie entre ses racines comme entre les bras d'un père, et je sais qu'il m'écoutait. Et sans doute qu'après, à son tour, il parla et qu'il me consola. Car lorsque, quelques heures plus tard, je m'éveillais, nez en terre et ronflant, de ma mélancolie plus rien ne me restait, qu'un peu de courbature au cœur endolori et une crampe au mollet. Le soleil s'éveillait. L'arbre, plein d'oiseaux, chantait. Il ruisselait de chants, comme une grappe de raisin qu'on presse entre ses mains. Guillaumet le pinson, Marie Gaudret le rouge-gorge, et la limeuse de scie, et la grise Sylvie, fauvette qui babille, et Merlot mon compère, celui que je préfère, parce que rien ne lui fait, ni froid, ni vent, ni pluie, et que toujours il rit, toujours de bonne humeur, le premier à chanter dès l'aube, et le dernier, parce qu'il a, comme moi, le pif enluminé. Ah, les bons petits gars, de quel cœur ils braillaient! Aux terreurs de la nuit, ils venaient d'échapper. La nuit, grosse de pièges, qui chaque soir descend sur eux comme un filet. Ténèbres étouffantes, qui de nous périra? Mais, farira rira. Aussitôt que se rouvre le rideau de la nuit, dès que le rire pâle de l'aurore lointaine commence à ranimer le visage glacé et les lèvres blanchies de la vie. Ouati, ouati, la laï, la la la, la déri, la rifla. De quel cri, mes amis, de quel transport d'amour il célèbre le jour. Tout ce qu'on a souffert, ce qu'on a redouté, l'épouvante muette et le sommeil glacé. La nuit, tout, oh iti, tout, frut, est oublié. Ô jour, ô jour nouveau,
Apprends-moi, mon merlot, ton secret de renaître à chaque aube nouvelle avec la même foi inaltérable en elle. » Il continuait de siffler. Sa robuste ironie me ragaillardissait. Sur la terre, accroupi, je sifflais comme lui. Le coucou, cocu blanc, cocu noir, gris cocu, nivernais. Jouait à cache-cache au fond de la forêt. Coucou, coucou, le diable te casse le cou. Avant de me relever, je fis une cabriole. Un lièvre qui passait m'imita. Il riait. Sa lèvre était fendue à force d'avoir ri. Je me remis en marche, chantais à plein poumon. Tout est bon, compagnon, le monde est rond. Qui ne sait nager, il va au fond. Par mes 500 ouverts à fenêtre large, à plein battant, entre, monde, coule en mon sang. Vais-je bouder la vie ainsi qu'un grand niais, parce que je n'ai point d'elle tout ce que j'en voudrais? Quand on se met à vouloir, si j'avais, quand j'aurais, il n'y a plus moyen de jamais s'arrêter. On est toujours déçu. On souhaite toujours plus qu'il ne vous est donné. Même Monsieur de Nevers, même le roi, même Dieu le Père. Chacun a ses limites, chacun est dans sa sphère. Vais-je m'agiter, gémir, parce que je n'en puis sortir? Serais-je mieux ailleurs? Je suis chez moi, j'y reste, et resterai, corbleu, si longtemps que je peux. Et de quoi me plaignais-je? On ne me doit rien, en somme. J'aurais pu ne pas vivre. Bon Dieu, lorsque j'y pense, j'en ai froid dans le dos. Ce beau petit univers, cette vie sans Brognon, et Brognon sans la vie. Quel triste monde, ô mes amis! Tout est bien comme il est, foin de ce que je n'ai point, mais ce que j'ai, je le tiens. Avec un jour de retard, je revins à Clamcy. Je vous laisse à penser comme j'y fus accueilli. Je ne m'en souciais guère. Et montant au grenier, ainsi que vous le voyez, j'ai mis sur le papier, hochant du nez, parlant tout seul, tirant la langue de côté, mes peines et mes plaisirs, les plaisirs de mes peines. Ce qui est grief à supporter est, après, doux à raconter. Chapitre 6. Les oiseaux de passage. Juin. Hier matin, nous apprîmes le passage à Clamcy de deux hôtes de marque, Mademoiselle de Termes et le comte de Maillebois. Ils ne s'arrêtèrent point et continuèrent leur route jusqu'au château d'Annois, où ils doivent séjourner 3 ou 4 semaines. Le conseil des échevins décida, suivant l'usage, d'envoyer le lendemain aux deux nobles oiseaux une délégation, afin de leur présenter, au nom de la cité, nos congratulations pour leur heureux voyage. On dirait que c'est miracle quand un de ces animaux s'en vient dans son carrosse rembourré, bien au chaud, de Paris à Nevers, sans se tromper d'ornière ou se casser les os. Toujours suivant les us, le conseil décida d'y joindre, pour leur bec, quelques friands gâteaux, orgueil de la cité, de gros biscuits glacés, notre spécialité. Mon gendre, pâtissier, Florimond ravisé, en fit mettre 3 douzaines. Ces messieurs du conseil se contentaient de 2, mais notre Florimond, qui est aussi échevin, fait tout avec largesse. À 16 sols la pièce, c'est la ville qui paie. Enfin, pour enchanter tout leur sens à la fois, et parce que, paraît-il, on mange mieux en musique, je n'en ai cure, moi, si je mange et je bois, on chargea 4 maîtres croque-notes de choix, 2 viols, 2 hautbois, en plus un tambourin, d'aller sur leur crin-crin sonner la sérénade aux hôtes du château en enfournant le gâteau. Je me mis de la bande avec mon flageolet, sans qu'on m'en eût prié. Je ne pouvais manquer une occasion de voir des figures nouvelles, surtout quand il s'agit de volailles de cour. Non point de basse cour, je vous prends à témoin que je n'ai rien dit de tel. J'aime leur fin plumage, leur babil et leur mine, quand ils se lissent les plumes,
où vont se dandinant, tordant le cul, nez au vent, et décrivant des ronds avec leurs ailes, leurs pattes et leurs pilons. D'ailleurs, qu'ils soient de cour ou d'ailleurs, d'où qu'ils viennent, qui m'apporte du nouveau pour moi est toujours beau. Je suis fils de Pandore, j'aime lever le couvercle de toute boîte, de toutes âmes, blanches, crasseuses, grasses, maigres, nobles ou basses, furoter dans les cœurs, savoir ce qui s'y passe, m'enquérir des affaires qui ne me regardent pas, mettre mon nez partout, flairer, humer, goûter. Je me ferai fouetter par curiosité. Mais je n'en oublie pas, vous pouvez être tranquille, de mélanger toujours le plaisant à l'utile. Et comme justement pour le cire danois, j'avais en mon atelier deux grands panneaux sculptés, je trouvais bien commode de les faire porter, sans bourse déliée, sur une des charrettes, avec les délégués, les viols, les hautbois et les biscuits glacés. Nous avions pris aussi avec nous ma Glodie, la fille de Florimond, pour profiter du char. C'était une occasion, sans qu'il en coûtât rien. Et un autre échevin emmenait son garçon. Enfin, l'apothicaire chargea sur la voiture des sirops, hypocras, hydromel, confitures, qu'il prétendait offrir, étant de ses produits, aux frais de Clamcy. Je note que mon gendre le trouvait fort mauvais, disant que ce n'était la coutume et que si chaque maître, boucher, boulanger, cordonnier, barbier, etc., en voulait faire ainsi, on ruinerait la ville et les particuliers. Il n'avait point si tort. Mais l'autre était échevin, comme lui, Florimond. Il n'y avait rien à dire. Les petits sont sujets aux lois, et les autres les font. On partit sur deux chars. Le maire, les panneaux, les cadeaux, les marmots, les quatre musiciens et les quatre échevins. Mais moi, j'allais à pied. Bon pour les impotents de se faire charroyer comme veau à l'abattoir ou vieille au marché. À vrai dire, le temps n'était pas des plus beaux. Le ciel était pesant, orageux, farineux. Phébus dardait son œil rond et brûlant sur nos nuques. La poussière et les mouches s'élevaient de la route. Mais à part Florimond, qui craint pour son teint blanc plus qu'une demoiselle, nous étions tous contents. Un ennui partagé est un amusement. Aussi longtemps qu'on vit la tour de Saint-Martin, chacun des beaux messieurs garda l'air compassé. Mais, sitôt qu'on fut hors des yeux de la cité, tous les fronts s'éclaircirent, et les esprits se mirent, comme moi, en bras de chemise. On échangea d'abord quelques propos salés. C'est la façon chez nous de se mettre en appétit. Puis l'un chanta, puis l'autre. Je crois, Dieu me pardonne, que ce fut le maire en personne qui entonna le couplet. Je jouais de mon flageolet. Tous les autres s'en mirent. Et, perçant le concert des voix et des hautbois, la petite voix grêle de ma Glodie montait, voletait et piaillait, piaillait comme un moineau. On n'allait pas très vite. De même, les bidets, au monté, s'arrêtaient, soufflaient, pétaradaient. Pour reprendre la route, on attendait qu'ils eussent exhalé leur musique. À la côte de Boischot, notre tabellion, maître Pierre de Lavaux, nous fit faire un crochet. On ne pouvait lui refuser, il était le seul échevin qui n'eût rien demandé. Pour aller, chemin faisant, dresser chez un client un projet de testament. Chacun le trouva bon, mais ce fut un peu long, et notre Florimond, s'accordant sur ce point avec l'apothicaire, trouva encore matière à récrimination. « J'aime mieux un raisin, voire trop vert, pour moi que deux figues pour toi. » Maître Pierre de Lavaux n'en termina pas moins, sans hâte son affaire. Fallut bien que l'acceptât, mi-figue, mi-raisin, monsieur l'apothicaire.